Radio Kapi.
Le journal Jocelyne Moussao.
Procès Constant Mutamba, la Cour de cassation rejette toutes les exceptions de la défense et ouvre l'instruction au fond dans l'affaire de 19 millions de dollars destinés à la prison de Kisangani. Le CNSA salue l'accord de principe entre le gouvernement et l'AFC M23 comme une feuille de route vers la paix, tout en appelant à un dialogue national inclusif et à des mesures urgentes pour soulager les populations de l'Est. Notre invité, c'est Taylor Lawamo, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Maniema. Il revient sur sa ronde effectuée aux différentes barrières à l'entrée de la ville de Kindu pour s'enquérir des plaintes de la population. Bonsoir à tous. Procès Constant Mutamba. La Cour de cassation rejette toutes les exceptions soulevées par la défense. Elle les déclare non fondées. Elle vient de rendre son arrêt avant dire droit. Selon la Cour, aucune disposition légale n'a été violée et elles ne se sont pas liées par des actes posés à l'Assemblée nationale. Elle débute ainsi l'instruction de la cause. Quant au fond, la défense de l'ancien ministre de la Justice a soulevé les exceptions des nullités de procédure et d'ordre public. Mais les ministères publics les a qualifiés de dilatoires, demandant à la Cour de poursuivre la cause qui est à sa deuxième audience en toute sérénité. Et les juges viennent de faire droit à cette demande. Jeff Ngoy nous fait le point.
Selon la défense, les articles 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 121 de la Constitution ont été violés. Il ressort de ces dispositions que les assemblées délibérantes, lorsqu'elles doivent statuer sur des individus, le vote se fait par bulletin secret. Ceci n'a pas été le cas pour Constant Mutamba à l'Assemblée nationale d'après sa défense. Et de poursuivre que l'instruction préjuridictionnelle est restée inachevée et que le dossier aurait été envoyé à la Cour pour fixation avec précipitation. Mutamba n'ayant été auditionné qu'une seule fois avant de tomber malade et de réquiser le parquet général. En revanche, le ministère public argue qu'il n'y a aucune disposition de la loi qui a été violée. Il n'appartient pas à un avocat, dit-il, d'apprécier à quel moment la préparation du dossier de son client est achevée. C'est le travail du chef du parquet et celui-ci avait écrit au concerné pour lui signifier la fin de l'instruction et de se tenir serein pour la suite. Nous sommes à la deuxième audience remise contradictoirement. Avançons, réplique le parquet.
Rappelons que l'ancien ministre de la Justice est accusé de détournement présumé des fonds publics, 19 millions de dollars destinés à la construction de la prison de Kisangani dans un marché de gré à gré avec la société Zion Construction, supposée fictive. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA, plaide pour un dialogue global et inclusif. Au cours de la plénière d'hier mardi à Kinshasa, il a salué la signature de l'accord de principe entre le gouvernement et l'AFC M23, le qualifiant de feuille de route claire vers une paix globale. Mais il invite le gouvernement à alléger les souffrances des populations de l'Est et à libérer les prisonniers en urgence. Pourquoi cette urgence, Michel Kifindangoy?
Réunis en session ordinaire de 10 à 19 heures sous la direction de son président Joseph Olengankoy, le CNSA félicite les parties prenantes et les médiateurs pour la signature de l'accord de principe à Doha qu'il considère comme un pas historique pour le rétablissement de la paix en RDC. Cependant, le CNSA exige l'application immédiate des mesures de décrispation, dont la libération sans délai des prisonniers identifiés, y compris les prisonniers politiques et d'opinion, l'arrêt des poursuites judiciaires et la restitution des passeports et biens immobiliers saisis. Préoccupé par la souffrance des populations dans les zones sous contrôle de l'AFC M23, le CNSA interpelle le gouvernement à leur permettre l'accès aux comptes bancaires et à verser les salaires des agents et fonctionnaires conformément à la Constitution. Il invite le président de la République à prendre des grandes décisions pour garantir l'intégrité du pays et l'unité nationale. finale. Au-delà du respect du calendrier fixé à Doha avec la fin des négociations le 18 août, le CENSA plaide avec insistance pour l'organisation d'un dialogue national inclusif afin de discuter de l'avenir du pays et que chacun se sente en sécurité.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, les affrontements opposant les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo du groupe des résistants patriotes congolais se sont poursuivis ce mercredi dans le territoire de Massissi. Selon plusieurs sources locales, les rebelles se sont emparés de l'agglomération de Luke dans le groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osso Bianyungu. C'est après des combats hier mardi jusque dans la matinée ce mercredi contre cette faction du groupe Pareco, commandée par un certain Mutayomba. Ce mercredi, ces combats se sont approchés jusqu'à Katunda, moins de 5 km du centre de Katoï. Ces sources déplorent cette escalade des violences dans cette zone de Katoï, Mufuni, Kibabi et Nyamaboko. Actuellement, la zone est enclavée. Les rebelles AFC M23 auraient bloqué l'accès aux deux groupements de Umandu depuis dimanche, à partir de l'axe Ngungu qu'ils occupent jusqu'à présent. Et à Beni, face à l'insécurité grandissante dans plusieurs quartiers de la commune de Bungulu, des acteurs de la société civile appellent à une collaboration étroite entre les jeunes et les autorités locales. Ils proposent l'organisation régulière des séances d'échange pour renforcer la lutte contre les violences nocturnes. Une situation observée également dans certaines zones des communes de Moulekera et de Rouenzori. Moïse Malikidogo, membre de la société civile, plaide pour une approche de proximité afin de dissuader les auteurs de ces actes. Il est au micro de Marc Maroufimbo.
Tout ce que nous allons demander aux autorités d'abord, c'est de nous donner des audiences verrées. Parce que des fois, lorsque nous venons verrer, ils commencent à nous assimiler à des bandits là. Que nous sommes parmi les bandits qui sont en train d'insécuriser la ville de Beni. Certes, nous savons que parmi ces jeunes-là, il y en a ceux-là aussi qui seraient en train de jouer au malais. Ils sont en train de se rétracter pour accompagner ces bandits-là. Mais toutefois, nous sommes en train de solliciter aux autorités de pouvoir aussi appeler les leaders des quartiers, les jeunes, ou alors de descendre dans des quartiers, de faire des meetings. Comme ça, peut-être, dans des meetings-là, il y aura des jeunes qui viendront vers eux, qui pourront leur aussi donner une petite contribution en matière sécuritaire. Comme ça, ça peut aider aussi les autorités à pouvoir développer d'autres... Parce que ce qui est vrai, ils ne sont pas des anges, ils ne maîtrisent pas d'autres anges. Mais à travers ce qui se passe dans la région, ils peuvent aussi apprendre beaucoup et développer d'autres mécanismes qui pourront aider la population à pouvoir dormir 2 ou 3 jours.
En Ituri, la commission justice et paix du diocèse de Bunia condamne les attaques lundi de la milice Codeco dans les localités de Nizi et Lopa qui ont fait une vingtaine de morts, des dégâts matériels et le déplacement des populations. Au cours d'un point de presse tenu hier mardi à Bunia, cette structure fustige l'alliance qu'elle qualifie de contre-nature entre les FRDC et la Codeco, ce qui risque de redoubler la crise en Ituri. La CDJP demande aux groupes armés de cesser les violences et des privilégier les mécanismes pacifiques pour résoudre les conflits armés dans cette province. Un extrait des propos de l'abbé Crisance Ngabou, choisi ici par Isaac Remoyope.
Nous dénonçons fermement les affrontements fratricides entre les éléments de Codeco et d'autodéfense. Vous êtes frères, cessez de vous battre, cessez de vous tuer, cessez de semer la désolation chez vos frères et sœurs, cessez de créer l'insécurité. Nous dénonçons en même temps le port d'armes par toute personne non militaire. Nous dénonçons l'alliance contre nature entre l'armée loyaliste FRDC et les milicaires Codeco ayant permis ces exactions. Nous en appelons donc à un sursaut patriotique de tous les protagonistes du conflit en Ituri, à la non-violence active et à la résolution pacifique des différends de tous les fils et filles de l'Ituri, à l'abandon de la formalisation des discours de haine et des alliances meurtrières par des personnalités et des institutions censées unir tous les Congolais contre le sous-développement mental, intellectuel, éthique et spirituel.
En réaction, le porte-parole de l'armée en Ituri indique qu'en aucun cas, les forces armées n'ont jamais posé un tel acte. Le lieutenant Jules Ngongo dit, je cite, « Nous traquons tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Condamnés sans enquêter, c'est le comble de l'ignorance. Ce sont des propos fallacieux dans l'objectif de faire la diversion. » Fin de citation. Parlons santé. Dans la province de Lomami, 22 cas de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Ngandanjika à la 28e semaine épidémiologique. D'après le médecin chef de zone de santé de Ngandanjika, depuis l'apparition de cette épidémie au mois de février dernier, 75 cas, dont 11 décès, ont déjà été notifiés dans 13 aires de santé sur les 19 que compte la zone de santé. Docteur Sylvain Mwanda demande aux habitants de bouillir l'eau des sources avant de la consommer. Il s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
À ce jour, la zone santé compte 75 cas, parmi lesquels 11 décès. La 28e semaine, nous avons eu 22 cas. La 27e, on était à 18 cas. Notre zone a 19 aires de santé et à ce jour, 13 sont touchées. Et parmi les 13, c'est l'aire de santé d'Impoi qui a eu le plus de cas. Faut dire qu'ici, il y a un problème d'accès à l'eau potable. Nos populations de l'intérieur du territoire ont une faible accessibilité à l'eau potable. Elles utilisent de l'eau tantôt des rivières, tantôt de sources d'eau aménagés, mais qui ne sont pas bien entretenus. En Poï, par exemple, où nous avons été, il y a des sources d'eau qui étaient aménagées à l'occasion de l'épidémie passée de choléra, mais ces sources-là n'ont pas été entretenues. Telle sorte qu'à ce jour, la population recourt encore à des lots de ruisseaux ou de rivières. C'est comme ça qu'à l'occasion, on a interpellé les chefs de groupement d'Impoï pour qu'ils puissent sensibiliser sa population de façon à entretenir les sources d'eau qui étaient anciennement réhabilitées avec l'appui de l'UNICEF. Ce que nous pouvons demander à notre population, c'est d'abord de prendre conscience qu'on est en épidémie. Il faudrait que la population traite l'eau des boissons, soit en recourant aux produits chlorés qui sont sur le marché.
Et puis, le sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé, Mbandaka, est engagé dans la lutte contre l'épidémie de choléra dans la province de la Mongala, de l'Équateur et de Maïndombé. D'après le point fait sur la situation épidémiologique de la maladie, la province de l'Équateur enregistre à ces jours 167 cas. La Mongala fait 250 cas suspects de choléra. Docteur Richard Lechou, chef du sous-bureau OMS Grand Équateur, explique comment son institution se bat avec les partenaires pour lutter contre cette épidémie dans le Grand Équateur. Il est joint depuis Mbandaka par Askin Zigbiatayo.
Nous sommes déjà dans cette zone de santé, notamment Mbandaka, Lukolela, Irebu, Ilangabubangi, Wangata, Makanza et Bolenge. Là, nous avons réussi à acheminer rapidement les médicaments ainsi que les intrants de prise en charge. C'est une dotation de 3 tonnes de médicaments de prise en charge, de kits PCI, d'autres petits intrants nécessaires pour réorganiser la réponse. Nous avons eu jusqu'à 4200 kits communautaires pour aider la communauté à améliorer son hygiène. Ça prend en compte les dispositifs de lavage des mains, le savon, le gel hydroalcoolique, mais aussi et surtout chlore. Il faut du chlore parce que le choléra, c'est une maladie hydrique, donc il faut s'assurer que la qualité d'eau qui est consommée est propre. Les communautés ont reçu jusqu'à 5000 sachets de sel de réhydratation. Tout ceci, c'est pour éviter les arrivées tardives et les retards dans l'organisation de la prise en charge. Jusqu'à la semaine 28, toute cette province, nous sommes autour de 11% de létalité. C'est vraiment pas normal. Le choléra, c'est une maladie. Bien soignée, elle est facile à contrôler.
À Kinshasa, lancement hier mardi de l'atelier de mise en œuvre de l'initiative Main dans la main de la FAO en RDC. Il s'agit d'un des programmes de cette organisation onusienne visant à développer le secteur agricole. Ces travaux font suite à l'adhésion de la RDC à cette initiative qui a déjà mobilisé 10 milliards de dollars américains à travers les 68 pays et qui ont adhéré à cette initiative, dont 38 États africains. Ce reportage de Loki Nzao est rendu par Babel Pongo Massimango.
Pour le ministre de l'Agriculture, l'adhésion à cette initiative fait suite à la volonté du gouvernement de transformer le secteur agricole. Mais que va apporter de plus cette initiative dans ce pays riche en terres arables, Grégoire Mouchal Moutombe?
Cette initiative s'intègre dans notre plan national stratégique de développement des deuxième génération et vient compléter nos efforts, notamment sur les corridors de développement et les chaînes de valeur stratégiques, maïs, manioc, café, cacao, EVA, ainsi de suite.
Pour Henri-Paul Eloma, assistant du représentant de la FAO en RDC, ce programme aidera à faire des agriculteurs congolais des grands contributeurs de l'économie nationale et au finish à l'autosuffisance alimentaire.
Main dans la main, c'est la volonté de la FAO d'accompagner les gouvernements à élaborer un plan d'investissement dans l'agriculture. L'initiative en soi, c'est mettre les États en face des investisseurs. Les investisseurs peuvent être des bailleurs de fonds, mais aussi le secteur privé, c'est-à-dire des personnes capables d'investir dans les terres durables que nous disposons, mais aussi dans les chaînes de valeurs qui sont la transformation, le transport, la commercialisation.
Le ministre a appelé l'assistance à s'approprier cette initiative qui peut devenir un catalyseur puissant pour le développement agricole du pays.
Rendons-nous au Kasaï oriental où trois prêtres du diocèse de Mbujimayi ont été démis de leur fonction de prêtre. Désormais, ils ne peuvent plus poser des actes liés au ministère sacerdotal ni revêtir la soutane. Cette décision est contenue dans un document signé par le chancelier du diocèse de Mbujimayi. Esther Dalafina nous en dit plus.
Les abbés Benjamin Tchala, Maximilien Kabongo et Pierre Béa sont les trois prêtres du diocèse de Mbujimayi qui viennent de perdre leur état clérical. Un d'eux fut chancelier du diocèse. Dans la lettre de notification signée le 18 juillet par le chancelier du diocèse de Mbujimayi, aucune raison n'est mentionnée pour justifier cette décision de perte de l'état clérical de ces trois prêtres. Certaines indiscrétions évoquent les actes contraires à la doctrine de l'Église catholique. La perte de l'état clérical signifie que ces trois prêtres ne peuvent poser des actes comme prêtres et par conséquent ne peuvent plus porter les soutanes, encore moins dire la messe. En réaction, l'un d'eux affirme sur sa page Facebook avoir renoncé seul au sacerdoce pour être en paix. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, le gouvernement vient d'installer la semaine dernière, tour à tour, une nouvelle administration au niveau de toutes les provinces du pays. De nouveaux magistrats ont été nommés à tous les niveaux. L'opposition fustige des nominations au sein du seul parti au pouvoir, mais aussi des nominations qui ne tiendraient pas compte des grands équilibres du pays, notamment régionaux.
L'invité.
Notre invité est Lawamo Selemani Taylor, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Maniema. Il revient sur sa ronde effectuée aux différentes barrières à l'entrée de la ville de Kindu pour s'enquérir des plaintes de la population. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le ministre Lawamo Selemani Taylor, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le ministre, nous vous avons vu faire une ronde dans différentes barrières de l'entrée de la ville de Kindu. Qu'est-ce qui justifie cette ronde?
Oui, justement, nous avons été informés par la société civile d'abord qui a dénoncé et nos services nous ont confirmé qu'il y avait des tracasseries dans certaines barrières de la ville de Kindu. Raison pour laquelle l'autorité provinciale m'a instruit de pouvoir me déplacer jusqu'à ces endroits-là pour me rassurer davantage de toutes ces allégations.
Monsieur le ministre, lorsque vous êtes arrivé, quel a été votre constat?
Les constats étaient vraiment malheureux parce que on a trouvé un encombrement et on a trouvé beaucoup de motos arrêtés sur place, ce qui justifie, ce qui peut dire que vraiment la population était tracassée. Et pourtant, l'autorité provinciale avait déjà pris un arrêté supprimant beaucoup de barrières et même réduisant certains services. Mais contre toute attente, on a trouvé multiplicité de services non figurés sur l'arrêté de l'autorité provinciale et même des services qui ont été placés à ces endroits-là avaient un personnel pléthorique, ce qui crée vraiment ce qu'on peut considérer comme étant une tracasserie.
Alors, quand vous avez constaté ça, quelle a été la mesure que le gouvernement provincial a pris?
D'abord, séance tenante, nous avons récupéré tout ce qui était à des barrières là, c'est-à-dire des services qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas reconnus à se placer au niveau de ces barrières, on les avait écartés et même le service d'ETD. Vous allez trouver par exemple pour l'ETD, il y a l'environnement, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de services, plus de 4-5 personnes, donc ça constituait vraiment une tracasserie. C'était devenu encombrant au niveau des barrières.
Monsieur le ministre, nous avons suivi aussi la population qui dénonçait le fait que quand on arrive au niveau des barrières, on demande toujours la carte d'identité et quand la personne exhibait sa carte, mais pour la remettre, il faut donner quelque chose. Vous confirmez aussi cette pratique?
Nous avons été informés aussi de cela. C'est ce qui a même fait à ce que nous puissions organiser même une séance avec les services qui étaient retrouvés là. Mais ce que nous devons savoir, que notre province ici est exposée à deux autres provinces qui sont menacées par les agresseurs rwandais. Alors ces barrières, c'était des barrières à caractère sécuritaire. L'objectif, c'était de surveiller la situation sécuritaire de notre province et non un objectif du type pécuniaire. C'est pourquoi nous mettons en garde tous nos services reconnus à ces barrières. derrière. Et donc, va se retrouver dans une sale benzone d'exiger le contrôle de la carte par un paiement. Vraiment, il va être ramené auprès des instances judiciaires pour qu'il puisse répondre de ses actes.
Monsieur le ministre, l'objectif, c'est de permettre à la population de circuler librement. Il y a aussi des familles qui vont seulement au champ où on exige également des cartes de lecteurs des mêmes villages.
Oui, ça c'est vraiment c'est ce qui est inacceptable. Comment se fait-il que quelqu'un est dans le même village où il y a la barrière, il est identifiable et de son passage juste pour aller puiser de l'eau ou soit pour aller au champ, en retour on lui demande la carte. Est-ce que c'est pour dire qu'il est allé faire des commerces là? Non, c'est parmi vraiment les comportements que nous n'allons pas laisser impunis. C'est la raison pour laquelle je reviens encore en mettant en garde d'abord nos services qui sont commis à ces barrières qu'ils n'ont pas à faire les commerces au niveau des barrières. Nous demandons à la population à cette occasion de pouvoir dénoncer. Il n'y a personne d'ailleurs qui est au-dessus de la loi. Tout celui qui va se compromettre dans l'exercice de ses fonctions, il va être non seulement déchu et il va être remis devant les instances attitrées.
Alors, monsieur le ministre, nous pensons que cette situation n'est pas seulement dans les barrières de l'entrée de la ville de Kindu, même au niveau de l'intérieur, on crie de la même manière.
Oui, oui, vraiment, à l'intérieur, nous sommes aussi informés que c'est là où il y a beaucoup de tracasseries parce que il y a nos frères aussi au Zalendo qui ont multiplié leurs barrières payantes et même pour passer là, ils commencent même à délivrer les feuilles de route, ce qui n'est pas normal pour la paix de la population. Raison pour laquelle l'autorité provinciale avait institué une commission qui va se transporter jusqu'à l'intérieur pour pouvoir lever toutes les barrières anarchiques. Ce qui est grave est que nos frères là au Zalendo qui devaient être en appui au FRDC se permettent même de chasser des agents de sécurité au niveau des différentes barrières. Ça, on ne va pas accepter. L'autorité provinciale a déjà institué une commission qui va se transporter jusqu'à l'intérieur pour pouvoir remettre de l'ordre et surtout instaurer l'autorité de l'État.
Monsieur le ministre, Lawamo Selemani Taylor, merci.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.